sun yin shun nan su din shun nam lan ran ju ma nu na ni nyan su ji na ri jin su ji be do la men ji san ji ma ju en les mundan dharma et sangha jusqu'à l'éveil j'entre en refuge par les bienfaits, les dons et vertus, que je m'éveille pour tous les vivants. Om Aum. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, ici et ailleurs. Notre rencontre de ce soir est celle des anciens. Nous allons donc continuer autour de la pratique du sadhana de Chenrezi. Et nous allons commencer par les questions qui étaient restées en suspens la semaine dernière. C'est la raison pour laquelle nous allons passer la parole à Derin. Derin, s'il vous plaît.
Alors, excusez-moi, je n'étais pas prête. Un instant. Alors, une question de Samten de Marseille. Alors.
Samten de Marseille.
Oui. C'est qu'il y a eu énormément de questions et je suis un peu perdue dans le database. Qui vous demandait la différence entre le Vajrayana, le Mantrayana et il y avait un troisième terme dont j'arrive pas à me souvenir, j'arrive pas à retrouver. Question.
Alors, c'est facile, chercher le troisième terme, mais il y a le mantrayana et le vajrayana, en tibétain le sangha dorje tekpa. Et quelle est la différence? Il n'y en a pas. Donc, ce sont deux synonymes.
D'accord, je crois que je m'excuse, mais je suis un peu perdue. J'ai l'impression qu'elle a disparu, la question du...
Non.
Je suis désolée, j'ai l'impression que la question
ça
a disparu.
Ça peut nous donner l'occasion de préciser un petit peu. Le Madhik Tekwa, Mantrayana, Dorje Tekwa, Vajrayana, et... Il y a aussi une expression plus détaillée qui est « Sangha Dorje Tekpa ». Si on traduit, c'est le véhicule adamantin des mantras secrets. Alors, il y a dans les tantras un aspect particulier et spécifique qui est l'utilisation de mantras. Mantra est un terme extrêmement difficile à traduire. C'est pour ça d'ailleurs qu'on ne le traduit pas. Si on voulait traduire mantra...
Un terme extrêmement difficile à traduire.
Ah, allons bon. C'est donc, on est bien d'accord, il le dit même de l'autre côté. C'est un terme extrêmement difficile à traduire. On pourrait traduire mantra par charme. Charme. Vous allez me dire, c'est quand même curieux. Hein. Mais il y a des formules qui ont un pouvoir, alors dans certains cas, on dirait un pouvoir magique. Un charme. Mais tu as un pouvoir aussi de séduction, le charme d'inspiration. Un mantra est aussi traduit, le mantra est aussi traduit par parole de force, c'est-à-dire une parole qui a en elle-même une puissance, une force particulière. Et mieux encore, on exprime et traduit mantra par une parole efficiente, c'est-à-dire une parole qui a le pouvoir de rendre efficient ce qu'elle dit, ce qu'elle exprime. Donc, c'est une parole qui a ce pouvoir particulier de manifester ce qu'elle exprime. Omani Pemerung a ainsi le pouvoir de manifester Chenrezi, de rendre présent, de rendre actuelle la présence de Chenrezi. Et il y a dans le mantra beaucoup de sens, beaucoup de fonctions, aussi bien de vacuité que de plénitude, d'évacuation que de manifestation. Le mantra évacue le discours mental. Ça, c'est une de ses étymologies. Mantra. Man, c'est le mental, dans ce cas, et cha a le sens de protéger. Si vous récitez un mantra, et particulièrement si vous le récitez dans une pleine présence, et encore plus si vous le récitez mentalement, le mantra prend la place de la pensée discursive. On ne peut pas penser à deux choses en même temps. On peut faire du zapping. Si on récite un mantra mentalement, on peut, entre les mantras, faire des... C'est comme des paquets de bits dans un tuyau informatique. Ça peut en passer. Mais on peut pas, on pense pas à deux choses en même temps. Donc, le mantra se substitue... prend la place, se substitue au mental, se substitue à la discursivité du mental, surtout si on récite mentalement. Et c'est dans ce sens que le mantra protège le mental de ses distractions, de ses divagations habituelles. Essayez de réciter mentalement Mani Padme Hum. Et si vous récitez vite, ça va d'ailleurs... D'autant mieux, ça laisse moins d'interstices. Donc, il y a ce pouvoir protecteur, évacuateur des distractions discursives habituelles. Et d'un autre côté, le mantra rend présent. Le mantra est le nom de Chenrezi et il a un sens littéral, il a un sens symbolique, il a différents sens. Il est comme un nom et l'appel du nom, et aussi il évoque en nous c'est la présence de Chenrezi, les qualités qui sont celles de Chenrezi. Donc il a ce pouvoir invocateur, convocateur, pourrait-on dire aussi, et rendant présent justement Chenrezi avec ses qualités. Donc, les mantras sont dans leur pratique et dans leur intelligence des secrets. Vous allez me dire, Omani Padme Hum, ça n'est pas très secret. C'est vrai, c'est un mantra universel, mais il y a dans la pratique des mantras différents types de mantras et certains sont tout à fait secrets. Le mantra de Chenrezi noir est un mantra que l'on ne prononce pas à haute voix et qui est secret pour... quiconque n'a pas reçu la transmission et l'initiation. C'est-à-dire, tous les soirs, quand on le récite, on commence « Om Benzamakala » et puis il y a tout le mantra qui est récité par ceux qui en ont reçu la transmission. Et à la fin, Hohom Bebe Soa. Non, c'est un exemple de mantra secret. Alors, il y a différents niveaux d'ailleurs de secret ou de discrétion, mais il y a une force et un pouvoir particulier à garder le mantra confidentiel, secret. L'expression publique a tendance à exercer une sorte de profanation, on pourrait presque dire. Donc, le mantra est secret de différentes façons. Il est secret dans le fait qu'on le garde privé. Il est aussi secret dans son mode d'action et de transmutation. C'est pour ça que l'on parle de sangha, de mantra secret, et qui est un synonyme de Vajrayana, de Dorje Tekpa. Et c'est ainsi que l'on parle de sangha Dorje Tekpa, c'est-à-dire la voix adamantine des mantras secrets. Voilà, Terine.
Merci, Rinpoche. Il nous relancerons dans la question si ce n'était pas suffisant. Par le site internet, il y a la possibilité de poser des questions aussi par un formulaire et pas seulement à travers le chat. Il y a des questions qui sont précises par rapport à la pratique de Chenrezig. Est-ce que je vous les pose dans le cadre du lundi soir ou...
Dites-nous maintenant.
Je vous dis maintenant. Donc une question de Michel Goury de Sainte-Catherine-les-Arras. Dans la récitation du mantra, je visualise Chenrezig en mon cœur sous forme d'un lotus blanc lumineux à 6 pétales. Cette visualisation n'est pas stabilisée. Je visualise aussi l'autre forme possible, le lotus avec riz blanc lumineux au centre, entouré de 5 pétales en 5 couleurs. Quelle est la bonne pratique de visualisation ?
La bonne pratique de représentation ou d'imagination. On ne parle pas tellement de visualisation. Je sais que le terme est beaucoup utilisé. Ça, je le fais souvent remarquer qu'il est plus juste de parler d'imagination. Imaginer. Donner, percevoir en une image. Donc, ce que l'on imagine, ce que l'on se représente, et ce qui est décrit dans l'adinda pour la phase de récitation, qui est la page 73 de notre texte. Donc, du haut de nos têtes, le Seigneur des vivants, le Seigneur des êtres, Chenrezig, fond en une lumière qui pénètre en moi et en tout autre, avec en le cœur, et cette lumière de Chenrezig vient en notre cœur, et là nous avons un lotus blanc à 6 pétales, avec riz au centre, et face à riz, les syllabes du mantra, Om Mani Padme Hum, Detsror Sum. Detsror Sum, ça signifie inscrit dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc, si le lotus, il y a le riz au milieu, et là, il y a le Om, Ma, Ni, Pe, Me, Hum. Les syllabes faisant face au riz qui est au milieu, donc le riz qui est là, et le Om, donc là où je suis, je verrai le Om qui fait face au riz, et Mani Pe, le Pe, pour le voir correctement, il faudrait de l'autre côté. Et toutes les syllabes font face, ça peut nécessiter un petit exercice d'imagination, ou même, là, si vous voulez, de visualisation 3D, mais ainsi. Et voilà, leurs raies, les raies de lumière purifient les impuretés et les voiles dans les six mondes, dans les six lokas, ou bien globalement, ou avec les six lettres et les lokas respectifs correspondants, purifiant les voiles et les, j'allais dire les impuretés, mais on sait maintenant qu'on ne purifie plus des impuretés, dissipant, alors, on ne purifie même pas des voiles à ce moment-là. Autrement, on a des voiles pures. Alors, dissipant les voiles et les impuretés, se révèle la réalité dévoilée, la nature de tous les vivants. Et c'est ainsi qu'en eux se révèlent les deux bodhicitta, absolue et relative, c'est ce que dit l'Ananda. Les deux bodhicitta naissent ainsi en tous les vivants et ils peuvent aussi à ce moment-là être perçus comme étant devenus Chenrezig. Et la lumière revenant, elle nous consacre, comme Chenrezig, elle consacre les différents courants de notre personne, corps, parole, esprit, et les trois ensemble, comme Chenrezig. Donc voilà par rapport à la représentation dans le cœur. Et cette représentation dans le cœur est très importante. Ce qui est important n'étant d'ailleurs pas tant de visualiser dans notre cœur, comme ça, un lotus, riz, les six syllabes. C'est bien de l'imaginer, mais l'imagination est là surtout pour nous amener dans notre cœur, pour amener notre présence, notre sensation dans notre cœur. Il ne s'agit pas de percher dans sa tête et puis de regarder comme ça, comme si on était du haut du perchoir, mais de descendre dans notre cœur et de sentir dans notre cœur cette irradiation qui diffuse dans toutes les directions, dans les dix directions. Quand on dit les dix directions, ça veut dire tout partout. Les quatre Orient, les quatre directions intermédiaires, Nadir, Zénith, de façon omniprésente. Voilà, s'il vous plaît.
Une question également très précise de Jinpa Samcho de Paris.
Jinpa de Paris, bonsoir.
Pourriez-vous expliquer en quoi Dakini et Protecteur sont-ils acteurs de toute œuvre éveillée?
Il est important de voir que Dakini et Protecteur correspondent à la parole et au souffle énergie. Donc, le sens ici profond et la relation qu'il y a entre le souffle, l'énergie, la parole et l'activité. On peut le comprendre de différentes façons. La parole déjà exprime et commande. Elle stimule l'activité, elle incite, et c'est vrai en nous, c'est vrai par rapport à d'autres personnes. Et le souffle énergie, l'énergie souffle est source de l'activité. Donc c'est dans cette intelligence et dans cette compréhension. Dakka et Dakini sont des messagers. Alors, c'est particulièrement évident dans la notion de d'Akinir, mais ça l'est aussi dans celle de Daka, qui est la version masculine. Et les d'Akinir sont les voyageuses célestes, les messagères célestes. Elles ont ce rôle de médiatrice, intercesseur et au féminin intercessrice, celle qui fait la liaison, la médiation, qui transmet, qui fait passer, rôle de transmetteur, de transmettrice de l'information et par là même vecteur de l'activité. Et particulièrement, le protecteur est celui qui met en œuvre l'activité éveillée dans le contexte que l'on vient d'esquisser. Et il est celui qui... le protecteur est dynamique et il est dans le feu de gnose, dans le feu sacré de la gnose, dans cette énergie d'expérience première en laquelle il développe les quatre activités éveillées, qui sont l'activité de pacification, l'activité d'enrichissement, l'activité de Vidyalatam Bhagavad Gita disait de magnétisation, on va y revenir, et l'activité de violente ou l'activité destructrice. Dans ces quatre activités, il y a une progression, il y a une logique. Et la première activité éveillée est une activité d'apaisement, de pacification, qui consiste à dissiper les illusions, à dissiper les passions. Donc on apaise. L'activité du protecteur apaise passion, émotion, dissipe voile, obscurcissement. Donc, c'est l'activité d'apaisement et de pacification. Et c'est toujours la première. Mais lorsque, dans une situation donnée, la simple pacification ou le simple apaisement n'a pas suffi, il peut être utile d'enrichir la situation. C'est la deuxième activité où on peut dire enrichir ou on peut dire développer, amener un développement, amener une ouverture, amener des éléments nouveaux, enrichir la situation de nouveaux éléments. Il y a un apport, un enrichissement. Et cela peut prendre bien sûr différentes formes. Ensuite, il y a la troisième activité est celle qui utilise un pouvoir, c'est son nom, une activité de pouvoir. Tout à l'heure, je l'ai rendue par magnétisation, mais c'est amener dans la situation y introduire un pouvoir, mais qui peut être une sorte d'attention ou une sorte de Pas une menace. Menace, c'est pas, ça pourrait, mais c'est pas, pas une menace, non. D'énergétiser la situation, de la magnétiser et de le, d'élever son niveau d'énergie et d'utiliser ses. Alors, pouvoir magnétique, mais ou simplement de pouvoir. Et lorsque toutes ces situations n'ont pas réussi, la dernière est l'activité que l'on courroucée. Ce serait mieux que l'activité courroucée qui consiste à arrêter, à couper. Dans une perspective thérapeutique, lorsqu'il y a une maladie, eh bien on va essayer d'apaiser le problème, apaiser le mal. Si le seul fait de calmer ne suffit pas, on va essayer de... On va enrichir, on va amener des compléments, pour essayer de mieux traiter. Après, on peut utiliser un pouvoir. Je ne sais pas si peut-être on va faire une radiothérapie, quelque chose. Tout ça n'a toujours pas réussi et qu'on a affaire à une tumeur maligne, eh ben on fait une exérèse, hein, on enlève, on coupe. Donc, c'est une façon de comprendre les différents niveaux de... Somme toute, c'est pertinent dans toute forme d'activité, mais ce sont là aussi ce que l'on nomme les quatre activités éveillées qui sont seules... particulièrement du protecteur. S'il vous plaît.
Une question personnelle. On a commencé à parler des déités et on parle de protecteurs. Quelle est la différence entre les déités et les protecteurs?
Il y a différents protecteurs. Il y a des protecteurs qui sont des aspects non parfaitement éveillés, mais qui ont été mis au service du Dharma et qui sont des assermentés, comme on dit certaines fois. Et puis il y a les protecteurs qui ont l'œil de sagesse, l'œil de gnose, qui sont éveillés. Et ces aspects que sont les protecteurs de gnose sont un aspect particulier de la déité, sont la déité dans son aspect dynamique. Alors, il y a d'une façon détaillée des déités paisibles et courroucées, comme on dit. Et les déités courroucées sont l'aspect dynamique, les déités paisibles sont l'aspect stable. Et on peut mettre en relation l'aspect courroucé de la déité et les protecteurs de gnose. Donc, pour faire simple, les protecteurs de gnose sont un aspect courroucé, c'est-à-dire dynamique, énergétique de la déité.
Merci.
On est arrivé
au bout des questions. Sur le Vajrayana, merci beaucoup.
Le Vajrayana et la relation à son Yidam est une histoire d'amour. It's a love story. Et l'on est aimé et l'on aime accueilli dans l'amour qui nous aime. C'est quelque chose de naturel et c'est une dimension très importante et profonde de la pratique. Ce sentiment d'amour, d'affinité et aussi d'amour somme toute réciproque, et l'amour appelant l'amour et étant aimé d'un amour inconditionnel, étant aimé de l'amour inconditionnel de Chenrezig, celui-ci suscite aussi en nous de l'amour. Et c'est particulièrement vrai lorsque l'on pratique Chenrezig, mais c'est vrai de tout Yidam. Et c'est aussi une raison pour laquelle il y a différents Yidam. Si je prends des exemples un petit peu triviaux, mais si vous aimez les blondes, il y a des blondes. Si vous aimez les brunes, il y a des brunes. Si vous aimez les rousses, il y a des rousses. Si vous aimez les gros balèzes, il y a des gros balèzes. Si vous aimez les sveltes et élancées, il y a des sveltes élancées. Si vous aimez les rouges, il y a les rouges. Si vous aimez les bleus, il y a des bleus. Et il y a alors là, c'est bien sûr caricatural et au niveau des aspects extérieurs, mais il y a aussi dans les qualités intérieures. Si vous aimez la sagesse, il y a la sagesse. Si vous aimez l'amour, il y a l'amour. Si vous aimez la force, il y a la force. Et il y a ainsi des qualités et des aspects variés qui peuvent correspondre à nos réceptivités, à nos sensibilités, à nos affinités et favoriser cette relation d'empathie. C'est aussi une relation de sympathie, hein, sympathie empathique et de et d'amour, mais au sens d'une participation qui fait écho en nous, qui nous parle et nous inspire. Voilà, c'est un point qui est important. S'il vous plaît.
Rinpoché, s'il vous plaît, une question sur ce que vous venez de dire. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de soutenir une névrose, en fait, comme ça ? Par exemple, vous disiez, ceux qui aiment la force, il y a la force, ceux qui aiment... est-ce que, justement, si on n'a pas un rapport pas tout à fait net avec, mettons, la sagesse, la force ou l'amour, pratiquer une déité sur ce même aspect, est-ce qu'il n'y a pas un risque, au contraire, de...
Il peut y avoir des déviations, mais... c'est dans ce sens que le Vajrayana est une transmutation aussi. Il y a plutôt que de renoncer à une en excluant ce que l'on percevrait comme étant un défaut, un défaut peut devenir une sorte d'inspiration et être absorbé dans la pratique et celle-ci le transforme, le transmute, le libère en ce sens.
Merci.
Mais pour rebondir sur la question d'Orgien, est-ce qu'on ne peut pas justifier par exemple une colère égotique en parlant de colère de Mahakala ou...
Certainement que l'on peut, et c'est complètement erroné, et particulièrement, alors, si l'on parle de Mahakala, Shadupa, il est Chenrezi, et donc il est la compassion, la bonté, l'empathie de Chenrezi. Mais le même amour que Chenrezi paisible, qui est lorsque c'est nécessaire, qui s'exprime avec un dynamisme intense, comme l'exemple que l'on donne souvent, une maman peut, en toute bienveillance, savoir faire les gros yeux et élever le ton pour faire bien entendre un message ou quelque chose qui n'avait pas été entendu de façon... Élever le niveau d'énergie est possible, mais c'est la même compassion, c'est le même amour, la même bonté qui est à l'œuvre. Et somme toute, dépourvu de toute agressivité et de toute finalement violence. Mais ça peut être corrompu et ce n'est jamais une justification.
En fait, on pourrait dire que c'est une colère sans saisie. Du moment qu'on a une saisie ou qu'on est accroché à la colère, ça veut dire qu'on n'a plus une colère qui est saine.
C'est une façon de le dire. Il peut y avoir une... C'est ce qu'on a certaines fois appelé une colère sacrée, ou une colère sainte, une sainte colère. Mais une colère qui est dépourvue de méchanceté, qui est dépourvue d'agressivité, qui est dépourvue de saisie, et qui est dans laquelle et qui peut être dans l'instant sans suite. Ce qui est important, la pratique d'un protecteur et ce genre de pratiques sont difficiles, délicates, susceptibles d'être de corruption, de déviation. C'est une des raisons pour lesquelles elles ne peuvent être abordées que avec une initiation, une transmission, des instructions spécifiques, et lorsque le pratiquant est prêt pour les bien pratiquer.
Merci. Une question de... Est-ce que vous voulez continuer l'enseignement? Je vous pose des questions après ou... Je ne sais pas comment faire.
Écoutez, aujourd'hui...
On va rester aux questions.
Restons dans les questions, puisque vous en avez des...
D'accord.
En arriéré.
C'est pas en arriéré, c'est par rapport à ce que vous avez parlé des protecteurs et des protectrices qui exercent les quatre classes d'activités. Est-ce qu'il y a des différences dans leur façon d'exercer ces activités selon qu'ils soient dakini ou protecteurs, ou est-ce qu'ils vont tous suivre ces activités de la même manière.
Ce sont tous des protecteurs de gnose et donc tous protègent la gnose. Dit autrement, tous protègent la non-dualité. Dit encore autrement, tous dissipent la dualité, sa saisie, ses illusions et ses passions. Donc, de ce point de vue, ils ont tous la même activité fondamentale, la même activité libératrice. Alors, ensuite, tout comme ils ont des aspects et des caractéristiques différentes, cette activité libératrice peut se manifester et être envisagée avec des tonalités, des modalités, des spécificités diverses et variées. Mais il y a une unité d'activité libératrice avec des modes libératoires ou opératifs qui peuvent être particuliers à chacun. C'est une question qui vient ici.
Une poitrine sur les protecteurs. Est-ce qu'ils peuvent se manifester dans des situations plutôt que dans des gens en fait, que ce soit genre une porte qui claque sur le doigt ou ce genre de choses.
Oui. Et on peut avoir et c'est même une façon directe, une manifestation directe, d'avoir dans sa vie une manifestation qui nous ramène à la gnose, qui nous coupe court à la frivolité, à l'illusion ou à la passion.
Et dans ce sens, on peut dire que tous les obstacles sont des protecteurs. Les obstacles sur le.
Enfin, les obstacles.
Pas sur le chemin, mais dans les malheurs qu'on rencontre en fait. Les douleurs, les accidents, les choses contraignantes en fait.
Les obstacles ou les douleurs, les souffrances sont à intégrer en les considérant comme des manifestations comme dans la pratique de l'Ojong, des manifestations du Bouddha, des manifestations du Lama, pour nous donner l'occasion justement de ne pas nous endormir, de continuer la pratique pour être un support de pratique. Et dans cette perspective, on peut, et il est juste, oui, de les envisager aussi comme une activité du protecteur qui n'est pas d'accord pour que nous nous endormions dans une complaisance, une indolence facile. S'il vous plaît.
Une question de Michel Samten de Marseille qui vous demande si vous pourriez expliquer l'imagination du riz blanc entouré des cinq couleurs également, comme vous l'avez fait pour l'autre visualisation, imagination.
Au début du sadhana de Chenrezig, le texte nous dit « Moi et tous les vivants emplissant l'espace avons sur nos têtes lotus blanc et lune. Donc, nous avons au sommet de notre tête un lotus blanc et sur ce lotus blanc posé le disque de la lune. Et dessus, ri. Donc, la syllabe germe ri, où il y a un point de lumière, où il peut être comme une ampoule incandescente qui rayonne de la lumière et dont le filament incandescent serait le ri. Dans sa graphie tibétaine, sanscrite ou française, romane. En tout cas, ce point de lumière rayonnant qui rayonne une lumière qui est principalement blanche, qui est claire, comme une lumière, une claire lumière blanche, mais qui est aussi quinticolore, qui est aussi teinté des cinq nuances, donc il y a blanc, bleu, vert, jaune, rouge. Mais elle est claire, et elle, dans les dix directions, comme on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire partout, tout partout, et cette lumière a une double action. D'abord, elle dissipe les illusions, elle dissipe les passions, elle dissipe les voiles. Elle a une action ainsi dissipatrice et purificatrice. Et cette lumière est aussi une offrande. Une offrande qui est adressée au Bouddha, Bodhisattva, des dix directions. Alors de nouveau, les dix directions, ça veut dire tout, partout, qui s'adresse à l'éveil omniprésent. Donc, rayonne ainsi, avec cette fonction d'offrande et de purification, de dissipation des voiles et des passions. Et dans sa fonction de purificatrice ou dissipatrice, elle révèle les qualités éveillées. Et dans sa fonction d'offrande, elle s'adresse à ces qualités éveillées, les Bouddhas omniprésents. Et ce sont toutes ces qualités éveillées qui ont été ainsi honorées et révélées, qui, sous une forme lumineuse, pareillement, comme précédemment, reviennent en la lettre ri au sommet de notre tête. Donc, toutes les qualités éveillées de tous les Bouddhas, Bodhisattvas, omniprésents en les dix directions, convergent en cette lettre ri au sommet de la tête, ce point de lumière. Et c'est à ce moment-là qu'ils se réunissent au sommet de notre tête toutes ces qualités éveillées qui prennent l'aspect de Chenrezig. Et Chenrezig étant l'essence, étant la quintessence de toutes les qualités éveillées de tous les Bouddhas, Bodhisattvas, des dix directions. Et c'est à ce moment-là, ensuite, que l'on lit le descriptif de l'iconographie de Chenrezig. Voilà. Je pense que c'est l'heure d'un petit moment de contemplation. Bonsoir à tous, à toutes, et au revoir.